La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau sujet dans la compagnie des auteurs. 40 ans après sa mort, nous revenons jusqu'à jeudi sur le parcours d'André Malraux. Les photos les plus célèbres de Malraux offrent un contraste entre les lieux héroïques où elles ont été prises et sa mise, toujours impeccable. Sa femme Clara l'avait photographié par exemple au Siam, en cravate et col presque rond, au milieu d'un temple avec dans le regard une détermination presque méchante. Il porte également la cravate et n'a pas l'air très commode sur la piste d'un aéroport devant l'immense hélice en bois d'un Farman 190, son manteau négligemment jeté sur les épaules. On pourrait multiplier ainsi les exemples de cette image d'aventurier élégant qu'a voulu se donner Malraux et que nous allons explorer jusqu'à jeudi, en parallèle bien sûr de l'exploration de son œuvre. En l'occurrence, jeudi, les écrits sur l'art, ce sera avec Jean-Yves Tadier, il nous parlera de sa conception singulière de l'analyse des œuvres d'art. Mercredi, ses écrits romanesques avec Henri Godard qui a dirigé, tout comme Jean-Yves Tadier d'ailleurs, l'édition de La Pléiade Malraux. Enfin, demain, nous traiterons de son rapport avec De Gaulle, ce sera avec Alexandre Duval-Stalla, puis avec Michel Crépu, nous parlerons en seconde partie de Malraux en mai 68. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le moment de s'intéresser à l'homme sur la photo et de chercher dans la biographie le contexte à l'écriture de l'œuvre. Nous le faisons avec Sophie Doudet, maîtresse de conférences en littérature française à l'IEP d'Aix-en-Provence. Elle vient de publier une biographie de Malraux en collection Folio, collection où elle avait déjà publié la biographie de Winston Churchill. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
On n'est jamais sensible à sa propre légende. C'est une chose qui erre autour de vous. Et on ne peut pas, vous le savez comme moi, se regarder sur le miroir. Eh bien, on ne peut pas non plus saisir sa légende. Elle est aussi loin de vous. Et j'ajoute, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Bonjour Sophie Doudet.
Bonjour Mathieu.
Est-ce qu'on peut croire André Malraux quand il dit que sa légende ne l'intéresse pas ?
Jusqu'à un certain point, en fait, il se cite à deux reprises dans les propos que vous venez de faire passer. La première fois, dans le fait qu'on ne se reconnaît pas dans le miroir quand on se regarde, puisque c'est une des plus belles scènes de La Condition humaine, donc son roman en 1933, où un des personnages, justement, affirme ne pas se reconnaître quand il se rencontre parfois dans le miroir. Cette idée qu'on est évidemment toujours pluriel et que l'image qu'on a à l'intérieur de soi ne correspond pas évidemment à l'image que les autres se font de nous-mêmes. La deuxième citation, c'est le fait effectivement que sa légende ne l'intéresse pas. Jusqu'à un certain point, le misérable petit tas de secrets qu'on va retrouver dans la préface des Anti-Mémoires de Malraux, donc un texte semi-autobiographique dans la deuxième partie de sa vie, fait la part entre ce qu'il appelle André, le biographique personnel, la vie finalement quotidienne, la biographie, et d'autre part la personnalité, peut-être la légende, mais aussi le créateur. Donc on peut le croire au sens où il parle effectivement et il se cite lui-même. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec une vie pareille, on peut quand même malgré tout, sinon se reconnaître dans le miroir, du moins être séduit par ce qu'on y voit.
Ben justement, un écrivain qui se cite lui-même, est-ce que ça lui correspond bien ?
Alors, ça, oui, ça lui correspond au sens où il vit peut-être davantage dans les livres, dans la fiction et dans l'écriture, que peut-être dans la vie réelle. Et même quand il est dans la vie réelle, la fiction, l'attend et le sert bien à chaque détour de son existence. Après, il y a une légende Malraux, qui n'y adhère pas, c'est une chose, jusqu'à un certain point. S'il n'est pas très narcissique, il est effectivement séduit par l'image qu'il donne de lui-même, et on peut le comprendre.
Alors, chercher dans ses livres qui étaient Malraux. C'est le conseil justement que vous a donné Florence Malraux, sa fille, quand vous êtes allé la voir, puisque déjà dans les années 90, vous vous intéressiez à André Malraux, vous avez fait votre thèse sur Malraux, et donc vous étiez à cette occasion allé voir Florence Malraux.
Alors, oui, ma vie avec Malraux commence assez tôt, en fait. C'est un peu ce que je raconte dans le début du livre, qui n'est pas la biographie, mais qui est comment on arrive à écrire un jour sur cet homme. Et j'ai travaillé à partir de ma maîtrise, puisqu'à l'époque, ça s'appelait une maîtrise, sur les écrits sur l'art d'André Malraux, et puis j'ai poursuivi par une thèse. Après, Florence Malraux, je l'ai rencontrée plus récemment que cela. Quand j'ai commencé, en fait, à faire cette biographie, j'ai eu la chance de la rencontrer à ce moment-là. Et elle m'a conseillé, effectivement, de s'intéresser plus au livre qu'au secret, si tant est qu'il y en ait encore.
Et pourquoi ? Parce que justement, on fait un mauvais procès à Malraux, que sa vie a été critiquée parce qu'il a été d'un côté communiste, puis gaulliste. Est-ce que son image a été à ce point brouillée que sa fille a eu envie qu'on s'intéresse essentiellement aux œuvres ?
Alors, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un malentendu, sans doute, sur l'image de Malraux, et sans doute y a-t-il participé lui-même à un moment donné, par une image médiatique, à partir du moment où il est devenu ministre. Mais c'est vrai que quand on travaille sur Malraux, on est quand même confronté très rapidement, dès le départ, à une sorte de question. Mais pourquoi travailles-tu sur Malraux à l'université ? On me l'a posé à plusieurs reprises.
Sous-entendu quoi ?
Sous-entendu que, ça n'est pas tout à fait un écrivain. Ça n'est pas tout à fait un philosophe, ça n'est pas tout à fait un historien de l'art. J'ai commencé à faire mes études à une période à l'université où la notion de transversalité, de mélange, de comparaison entre finalement les œuvres était sans doute pas légitime. Et si j'avais choisi Malraux, c'était sans doute peut-être inconsciemment, parce que précisément je pensais qu'on pouvait non pas mélanger, mais se servir finalement de la comparaison d'idées, de domaines de recherche différents pour justement aller plus loin et cerner davantage l'œuvre d'une personne. Donc j'ai été effectivement confrontée à cette question de la légitimité de mon sujet de recherche au départ, et puis après en rencontrant des gens, en discutant et puis en faisant des conférences plus tard, je me suis rendu compte que tout le monde avait plus ou moins un compte à régler avec André Malraux. C'était sans doute une question de génération. Les gens qui l'ont connu ou qui ont été relativement jeunes ou contemporains, c'est-à-dire sont nés par exemple pendant la guerre ou juste après, ont surtout vu le ministre et parfois ont vu effectivement celui qui avait été plutôt le héros de l'antifascisme et qui était passé, je dirais, du côté des ordres de la République et ne lui ont pas pardonné. Peut-être aussi parce qu'on ne pardonne pas toujours ces désillusions de jeunesse. Et donc, il y avait parfois du règlement de compte que j'ai retrouvé dans certaines biographies que j'ai lues pour tout simplement faire mes études et ensuite pour faire ce livre.
Donc, vous pensez que s'il n'avait pas été ministre du Général, on l'aurait considéré comme un écrivain sans problème ?
Jusqu'à un certain point. C'est sûr que le passage à la politique chez les écrivains est toujours problématique, y compris encore aujourd'hui. Après, il y a un autre peut-être problème qui concerne l'héritage, c'est peut-être la difficulté de lecture d'un certain nombre de ses ouvrages, y compris romanesques, et qui fait que parfois le public est perdu ou ne retrouve pas tout à fait les mêmes obsessions. Il y a une obsession pour la mort, un rapport à la métaphysique, un rapport à une lecture de la société contemporaine qui n'est peut-être pas tout à fait en écho avec la nôtre aujourd'hui. Les gens qui ont lu Malraux dans les années 20-30 étaient des lecteurs de Nietzsche, adoraient Dostoïevski, avaient finalement cet agnosticisme de Malraux en tête. Peut-être que la génération d'aujourd'hui est moins préoccupée par la mort de Dieu.
La mort frappait autour de lui, comme pour le confirmer dans son hypothèse très noire, qui est l'hypothèse de fond, n'est-ce pas ? À savoir que rien n'a de sens, que la vie est vaine, qu'on naît et qu'on meurt par habitude depuis des millénaires, et que ça ne change rien. Parce que peut-être qu'il y a des civilisations différentes, mais elles sont vouées au néant. Alors, seule chose qui puisse émerger de cette absurdité qu'il se représentait d'une façon presque phobique, en fait, c'est justement des instants merveilleux. En fait, sa riposte, si l'on peut dire, au deuil qu'il frappe, c'est d'écrire, c'est l'œuvre, c'est la réflexion sur l'art, et c'est aussi l'action. Car quand, par exemple, la femme avec laquelle il vit depuis 4 ans est tuée par accident, alors qu'il lui-même est sur le front d'Alsace, que fait-il ? Bon, il va l'enterrer, c'est en Corrèze, et puis il retourne sur le front d'Alsace.
L'absence de sens dont on parle ici, le philosophe Jean-François Lyotard comme étant le moteur de la vie d'André Malraux, Est-ce que vous souscrivez à cela ?
Oui, je pense que c'est vraiment le point de départ et le point d'arrivée, un dialogue constant entre la mort et ce qui peut ou essaie de survivre à l'oubli et précisément à la mort. Donc il y a un double constat chez Malraux. D'abord le caractère absurde de l'existence. À 16 ans, il perd la foi. Il lit des grands maîtres du soupçon, Nietzsche, Freud il est très réticent, hein, mais Dostoïevski d'une certaine manière, au sens où les personnages de Dostoïevski qui le séduisent le plus sont pas forcément les croyants, c'est ceux qui essaient de croire, y compris par exemple le personnage de Chatov dans Les Possédés.
Lui aimerait croire,
oui,
ça le rassurerait de croire.
Rassurerait non, mais je pense qu'il y a c'est quelqu'un qui est amputé de la croyance. Il est convaincu qu'il est nécessaire qu'il y ait du sacré et de la transcendance. Simplement, il ne peut pas adhérer à une religion. À plusieurs reprises dans son existence, il tentera, je dirais, la révélation mystique. Quand il est prisonnier, quand il est confronté à la mort au sens du trépas, ce qui est tout à fait différent de la mort métaphysique. Le trépas, ça lui fait pas peur, mais il peut effectivement manquer de mourir à plusieurs reprises dans son existence. Et à ce moment-là, il tentera, dans des nuits, de lire la Bible, d'avoir cette révélation, et il ne l'aura pas. Et il dira toujours, je ne pourrai pas aller à Jérusalem parce que il faudrait dire que ta volonté soit faite. Et il y a un hérissement, une révolte qui fait qu'il ne peut pas accepter cette soumission. Somme toute, à une croyance. En même temps, il y a un regret. C'est quelqu'un qui, pour lequel l'absurde n'est pas une évidence. Mais c'est le moyen, précisément, et c'est le deuxième versant de la vie de Malraux, la deuxième révélation, c'est qu'il y a des choses qui survivent à ses yeux, qui sont dans l'ordre de la présence, des œuvres d'art, des actions, peut-être même l'amour qui unit à un moment donné, ou la fraternité qui unit les êtres. Et c'est quelque chose qui est en face d'eux, anti-destin. Et ça, c'est permanent dans l'existence de Malraux.
Alors, vous avez parlé de la perte de la foi d'André Malraux à 16 ans. Après, à l'issue, à la sortie d'une enfance qui a été vécue par lui comme une humiliation. On peut dire qu'il vient d'un milieu de classe moyenne, vivant à Bondy, et marqué aussi cette enfance par un grand sentiment d'ennui.
Oui, c'est assez étrange. Si on suit les mémoires de sa première femme, Clara Goldschmidt, elle s'explique mal, et en tout cas elle se fait l'écho d'un sentiment énorme d'humiliation de la part de Malraux, alors que quand elle va rencontrer un petit peu plus tard la famille de Malraux, elle sera étonnée de la gentillesse de sa mère, de sa tante, et elle se rend compte en fait que ce que Malraux a pu laisser échapper rarement de son enfance relève d'une... en tout cas de quelque chose qu'elle n'arrive pas à valider ou en tout cas à reconnaître. Donc il y a le sentiment d'une humiliation, peut-être parce qu'il n'y a pas de grandeur, peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait dans Paris, peut-être parce qu'on ne réussit pas tout à fait ses études sans y échouer. Il y a une sorte de normalité, de banalité, peut-être aussi un homme très pressé. Pressé dans, je dirais, de faire le marché des valeurs, comme il le dit, jusqu'à ses 20 ans, et d'arriver à les mettre finalement en jeu, au sens propre et au sens figuré, parce qu'il y a un côté très joueur chez Malraux. Et il y a cette idée que finalement le réel déçoit et qu'il n'arrive pas à permettre à Malraux de se grandir ou tout simplement d'exister, d'imprimer sa marque sur la carte, comme il le dira plus tard à propos de Perken dans la Voie Royale, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de mettre en jeu sa volonté de puissance. Et le seul endroit où on peut finalement compenser, et c'est un mot important dans la littérature de Malraux, cette idée de compenser des échecs ou tout simplement le sentiment de l'humiliation, c'est les livres, c'est la culture. Parce que c'est à la fois une fiction et c'est aussi un lieu et un domaine dans lequel Malraux est un roi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de très érudit, d'une intelligence foudroyante, fulgurante. Récemment, on a édité les Fulgurances d'André Malraux chez Gallimard en folio, entre guillemets. C'est absolument remarquable. C'est parfois, ça vous perd, hein, mais c'est le signe de cette intelligence qui parfois va trop vite. Et chez un enfant ou un adolescent, quand ça va trop vite, on est incompris.
Donc une intelligence qui fait que peut-être il ne passe pas son bac, justement, et que donc il se considérera comme un autodidacte, mais un autodidacte qui réussit quand même un très bon début de vie, directeur littéraire à 18 ou 19 ans des éditions du Sagittaire, premiers articles dans la revue Connaissance, où il publie notamment un article sur les origines de la poésie cubiste. Et donc là, on peut le dire, il cherche à s'extraire de son milieu et il va vivre une bohème à Paris avec quelqu'un qu'on n'attend pas ici et qui est Max Jacob.
Qui est Max Jacob et qui va jouer le rôle de tuteur ou en tout cas de quelqu'un qui est une sorte de... pas de père de remplacement, mais en tout cas quelqu'un qui est évidemment plus âgé et qui le guide, qui le canalise peut-être un petit peu et qui surtout lui fait connaître les avant-gardes et qui lui résiste d'une certaine manière aussi et qui n'est pas systématiquement dupe de son érudition étourdissante.
De sa posture de dandy.
Exactement. Et qui en même temps joue le jeu, c'est-à-dire reste malgré tout séduit. Qui est aussi préoccupé par sa propre personne et qui de fait prend Malraux dans sa constellation. Et il y a un jeu de miroir et de reconnaissance mutuelle. Max Jacob a ce jeune garçon, ce rapace, comme dira plus tard Mauriac.
Qui est aussi très beau.
Voilà, dans son sillage et Malraux évidemment, grâce à Max Jacob, d'abord est séduit par l'intelligence et par le milieu de Max Jacob et rencontre évidemment rentre dans ce milieu parisien. Et il va quitter progressivement Bondy et s'installer à Paris et essayer de vivre par ses propres moyens.
Et pourtant, ces deux-là, on ne les imagine pas tellement ensemble parce que Max Jacob, c'est vraiment un poète total, alors que André Malraux, c'est quand même aussi un homme d'action.
Alors, c'est un homme d'action, mais à l'époque, pas vraiment. C'est quand même un dandy, un très jeune homme, quelqu'un qui s'intéresse à la poésie cubiste, à l'art, mais qui n'a pas... Enfin, si vous voulez, rétrospectivement, quelqu'un qui est spécialiste de Malraux va reconnaître les germes de ce que Malraux va devenir. Mais objectivement, à l'époque, c'est quelqu'un qui est un peu touche-à-tout, qui s'intéresse un peu à Gide, qu'il rencontrera un petit peu plus tard, qui s'intéresse à la poésie, à la peinture, qui sait monter des livres, sait chiner, récupère des textes érotiques, va à la Bibliothèque nationale. Enfin, il va un peu dans tous les sens et je dirais qu'il cherche une voie. En tout cas, aujourd'hui, c'est relativement facile d'agréger tout cela, mais à l'époque c'est peut-être très hétéroclite, un petit peu comme un de ces personnages, le baron Clapic dans La Condition humaine, qui est à la fois farfelu, sérieux, qui a été antiquaire, artiste, qui n'a pas réussi à l'être et qui finalement volette d'un côté et de l'autre.
Mais on peut pas dire que c'est un poète maudit, par exemple, alors qu'il est au milieu des poètes maudits et qu'il descend intellectuellement de Baudelaire, qui est son parrain spirituel.
Oui,
c'est ce qu'il dit en tous les cas.
Oui, et après, c'est quelqu'un qui connaît par cœur Hugo, Baudelaire, et en même temps qui a très bien compris que s'il voulait se construire et avoir une voix dans ce milieu littéraire, il fallait peut-être qu'il prenne le contrepoint, ou le contre-pied. Plus exactement, c'est-à-dire qu'on le voit relativement critique avec Lautréamont, assez peu finalement intéressé par le surréalisme naissant, et on voit qu'il est à la fois dans la voix, et il a bien compris que c'était quelque chose qui était porteur, et en même temps, on le sent quand même, je dirais pas opportuniste, mais en tout cas extrêmement lucide et assez objectif sur le sens, ou en tout cas les mots qu'il faut avoir, de telle façon à exister à côté d'autres et de commencer à se singulariser.
Et puis, nous sommes au début des années 20, apparaît Clara.
Je m'intéressais beaucoup à la littérature, j'avais commencé à faire des traductions, et j'avais été mise en contact avec quelqu'un qui s'appelait Florent Fels et qui dirigeait une revue relativement d'avant-garde, même sans doute tout à fait d'avant-garde, qui s'appelait Action. Et c'est à un dîner de cette revue que j'ai rencontré un grand jeune homme qui sortait d'une diphtérie, ce qui lui donnait fort mauvaise mine, qui avait d'ailleurs naturellement assez mauvaise mine, et qui avait un grand pas allongé qui m'a frappé tout de suite et dont je suis plus tard, enfin que j'ai attribué plus tard au fait qu'il était d'une famille de marins. Là aussi, je sais que lui et moi, nous avons pu naviguer par le plus mauvais temps du monde sur des bateaux où on nous disait que le capitaine lui-même était malade sans avoir le mal de mer. Et ce grand pas qu'il avait et mon pas plus petit nous permettaient de tenir là-dessus. En réalité, nous aimions les mêmes choses et nous voulions la même chose de la vie.
Voilà, Clara Goldschmidt, qui deviendra bientôt Clara Malraux. On peut dire, Sophie Doudé, que c'est son double féminin.
Ah, elle a de la classe quand même, hein, Clara.
Ah bah lui aussi, non.
Ah oui, mais c'est une rencontre. Je pense que Malraux n'aurait pas été Malraux de la même façon, aussi rapidement, si elle n'avait pas été là.
Alors que pourtant, il va la quitter.
Ça n'empêche pas. On peut aussi devenir Malraux en quittant Clara. D'abord, elle a été le témoin, d'ailleurs peut-être parfois un peu gênant, hein, de cette jeunesse, de ce Malraux qui devient Malraux. Ils se rencontrent, ils sont très jeunes, elle est un peu plus âgée que lui. Elle lui apporte un volet, un pendant de la culture qu'il n'avait pas tout à fait, en tout cas qu'il avait un peu méconnu, la philosophie allemande. Elle parle allemand, elle est capable de traduire un texte important qui est le déclin de l'Occident de Spengler à l'époque, qui joue un rôle important dans la formation intellectuelle de Malraux et de beaucoup d'intellectuels de l'époque, parce que c'est une conception de l'histoire qui est un peu différente et ça va développer, je dirais, un rapport aux civilisations un peu novateur chez Malraux. Et puis, il voyage et je dirais qu'elle est aussi celle qui l'accompagne, bon, qui lui donne aussi les possibilités financières, hein, de le faire, mais qui l'accompagne et qui est une sorte de alter ego, comme vous l'avez tout à fait dit, et qui autorise Malraux, qui l'autorise à finalement croire en ce qu'il veut être, qui d'une certaine manière la couche, au sens où elle est parfois plus à gauche que lui. Quand lui est un peu fou, elle est un peu réticente et elle est sage. Mais inversement, quand lui est peut-être en train de douter, elle va de l'avant. Et je dirais que, comme elle dit, petit pas et grand pas avancent dans la tempête et se fabriquent un écrivain, indéniablement.
Donc tous deux vivent une existence assez agréable. Vous l'avez dit, elle a de l'argent que Malraux va investir opportunément d'abord dans des actions mexicaines qui ne cessent dans un premier temps de monter. Et tout d'un coup, badaboum, tout disparaît. Ils deviennent pauvres, peut-être pas tout à fait pauvres, mais enfin assez désargentés.
Et non plus rien, et phrase connue de Malraux, vous ne croyez tout même pas que je vais travailler. Et effectivement, ce projet fou, insensé, incroyable quand même à l'époque, hein, de partir vers l'Asie, avec pas grand-chose, hein, des ciégoïnes quand même, ils ont pas grand-chose, ils ont des costumes qui se font tailler pour aller chercher quelques têtes khmer qui à l'époque se vendent relativement cher sur le marché de l'art occidental, donc l'Indochine, le Cambodge aujourd'hui, pour aller... prélever, dit-on, des statues sur la voie royale dans un temple qui est à côté d'Angkor.
Donc ils partent avec un ami, c'était d'ailleurs, ça nous fait presque tirer des larmes, hein, le seul ami d'André Malraux quand il était enfant, Louis Chevasson, donc, qui part avec eux. Le voyage est assez long, Malraux s'ennuie beaucoup et puis en arrivant là-bas, il se présente aux autorités, il visite les musées. Ça va peut-être d'ailleurs leur coûter cher de rencontrer les gens de l'Alliance française notamment. Mmh.
Alors, bah, c'est une des premières confrontations à la fois de ces deux jeunes, de ce couple, avec une institution, avec l'administration française et une administration qui n'est pas tout à fait n'importe laquelle, c'est l'administration coloniale. Donc effectivement, quand ils arrivent, on se rend compte très rapidement qu'ils ne sont peut-être pas les archéologues qu'ils déclarent, même si Malraux se défend, hein, sur un plan d'archéologie. Il a lu quelques livres et il en fait des choses assez efficaces. Hein. Il a une très bonne intuition, il est capable de lire des livres sans forcément d'ailleurs les lire en entier.
Il saura découper les bonnes statues sur les
temples. Voilà, il a bon goût, on va dire, pour avoir vu le temple, pour être allé sur les traces de Malraux un peu partout dans le monde.
Ah oui. Elles ont été reposées maintenant ?
Oui, elles ont été reposées. Le temple a été intégralement reconstruit par la France. C'est le temple de Bantesrey, excusez-moi pour la prononciation. Et effectivement, c'est un temple de grès rose. Il est magnifique. C'est un tout petit temple. C'est le temple des femmes. Et effectivement, il avait bon goût. Et donc, effectivement, ils se font repérer, à la fois parce qu'ils sont jeunes, il a écrit dans les avant-gardes, bon, grosso modo, on les prend pour ceux qu'ils ne sont pas encore tout à fait, c'est-à-dire des communistes et des révolutionnaires. Tout ça fait qu'ils détonnent, et très rapidement, ils se font repérer. Entre-temps, il y a quand même un texte de loi qui est passé, qui interdit tout simplement aux archéologues de prélever les statues, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des fouilles, mais il faut qu'ils laissent en place ces statues. On rappelle évidemment ce texte à Malraux, qui passe outre.
Donc ils partent sur le bateau et mettent les caisses dans la cale et là, une escadrille, vraisemblablement, de policiers leur dit qu'il ne faudrait pas qu'ils partent si vite et c'est donc un procès qui va être finalement gagné par Malraux.
Alors oui, jusqu'à un certain point.
Un peu sur un malentendu.
Oui, sur un malentendu. Donc effectivement, Malraux se bat bec et ongles, Clara aussi. Qui va rentrer en France et qui va réussir à obtenir finalement une sorte de manifeste de la part des plus grands intellectuels et des grands écrivains de l'époque qui signe une pétition de soutien à André Malraux. Est-ce que ça a joué jusqu'à un certain point ? Après, effectivement, il y avait une logique juridique qui fait que Malraux finit par être libéré. Mais ça ne suffit pas. Il rentre, il repart avec un autre combat en tête.
je pense que dans ma vie, une chose qui a joué un rôle capital, c'est l'Indochine. Je me suis trouvé avec, lié à moi, les Indochinois. Et à ce moment-là, quelque chose a complètement basculé. C'est pas que j'étais d'un autre côté avant. L'autre côté, c'était l'indifférence. Oui. Mais le lien avec, disons pour simplifier, ce qui eût été exactement l'époque, les opprimés, est certainement né à ce moment-là.
Malraux interrogé par Jacques Chancel. Donc Malraux va passer, Sophie Doudet, d'une sorte d'indifférence politique. Il va passer aussi de celui qui vient pour prélever, disons, des statues au patrimoine Khmer à quelqu'un qui s'intéresse au sort des populations locales.
Oui. Entre-temps, Clara Malraux avait contacté un avocat qu'on surnomme à l'époque l'avocat des Annamites, Paul Monin. Et non seulement Paul Monin va participer à la libération de Malraux, mais surtout il va aider à la création d'un projet que Malraux a quand il rentre en France et qui est de revenir en Indochine pour créer un journal qui s'appellera l'Indochine dans un premier temps, qui sera interdit de publication et qui sera réédité de façon plus courte sous le titre d'Indochine enchaînée et qui va défendre jusqu'à un certain point les intérêts des Annamites. Je dis jusqu'à un certain point parce que ça n'est pas un journal révolutionnaire. Alors, ce qui est sûr, c'est
qu'il est pour la collaboration, voilà. Toujours avec
et la reconnaissance, et la reconnaissance des droits et la formation des élites annamites. Et c'est une équipe qui est mixte, c'est-à-dire que dans les deux sens du terme, Clara participe, donc il y a une femme. Et surtout, il y a des annamites qui sont là, qui aident à la fabrication du journal, à l'écriture des articles et aux traductions. Et le journal va gêner vraiment l'administration coloniale qui va tout faire pour l'empêcher.
Même si ce n'est pas encore une fois un journal extrême.
Oui, mais il y a des dénonciations.
On l'appelle le bolchevique.
Voilà, non, pas du tout. Mais par contre, il y a des dénonciations qui ont de l'importance à l'époque parce que il y a des dénonciations qui concernent des procès, qui concernent des spéculations immobilières et de terrains. Les colons, s'attribuent des terrains de façon illégale ou en tout cas sans payer ces terrains. Et les procès, et en tout cas le battage que Malraux va faire sous la forme de l'Indochine, va tout simplement ne pas faciliter les choses de l'administration coloniale. Et donc, on va tout faire pour le faire taire.
Donc le voilà directeur de journal. Là encore, l'expérience va durer quelques mois, quelques années peut-être. Mais plus important peut-être que vraiment son expérience de militant et sa découverte, cette fois vraiment profonde, de l'Asie. Et il va écrire beaucoup sur l'Asie, 4 romans. La tentation de l'Occident en 1926, Les conquérants en 1928, La voie royale 1930 et en 1933, donc ce roman qui va lui assurer la célébrité. La condition humaine. Donc, ses racines littéraires sont vraiment plongées, Sophie Doudet, dans l'Asie.
Oui. Je pense qu'au départ, c'est davantage culturel. Il y a des lectures, Loti, Ségalin. Finalement, l'Asie qui attire beaucoup d'intellectuels, qui avait avant attiré d'ailleurs au passage des gens comme Nietzsche ou Schopenhauer de façon antérieure. Donc, je dirais qu'il y a une Asie théorique. Après, il y a une Asie esthétique. Quand Malraux il va pas chercher des statues khmer pour rien, il pourrait aller ailleurs. Donc, il y a un tropisme asiatique. Et ensuite, il y a la révélation d'un autre pôle de la pensée, ce qui sera développé notamment dans La tentation de l'Occident, son premier texte, c'est-à-dire que Malraux va chercher aussi ce qu'il est et ce que
en serait... En tant qu'occidental, Nietzsche, on pourrait dire.
Exactement. Donc par comparaison, précisément, et il va comprendre davantage qui il est, ou la vanité de ce que peut être, par exemple, l'individualisme occidental, au contact de l'Asie, qui elle est collective, qui est holiste, comme on dit en sociologie, qui pense dans la communauté, mais aussi dans l'harmonie. Et il saisit, dans le lieu même, dans son corps même, dans sa psychologie même, la différence entre un Occident qui est révolté, qui se hérisse en permanence, qui n'est pas apaisé, qui se hérisse contre la mort, et une Asie qui est davantage celle de la communion, différence de rythme, différence évidemment de paysage, mais davantage aussi un rapport à la mort qui est radicalement différent.
Mais d'abord, lui, ça ne va pas forcément l'apaiser. Je pense qu'il restera nietzschéen jusqu'à la fin de sa vie et profondément occidental. Et en revanche, ce qu'il voit bien, c'est que il y a une vague d'occidentalisation de l'Asie. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on connaît. C'est-à-dire que les valeurs de l'Occident, un peu prométhéennes, sont des valeurs qui semblent avoir, en grande partie, submergé l'Asie.
Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose de visionnaire quand
même. Oui, exactement. Et jusqu'à la fin, parce qu'une grande partie des anti-mémoires est rédigée avec cette idée que l'Asie qu'il a connue a disparu, que le jardin sec au Japon, dans lequel il rencontre un bonze, va mourir, et que s'éteint cette Asie à la fois traditionnelle, mais aussi finalement toute une civilisation qui était structurée sur des valeurs qui étaient celles de la communauté, mais aussi celles de la communion. On peut communier, y compris avec la mort. Et c'est une des grandes thématiques de La Condition humaine en 1933, cette opposition entre l'Occident d'Anchen, c'est-à-dire qui est quelqu'un d'origine chinoise, qui a une éducation qui est à la fois protestante, mais qui est aussi passée par Nietzsche, et la prédication de Nietzsche, Malraux l'explique dans Les Conquérants, précisément, et cette découverte qu'une vie est unique et qu'il ne faut pas la rater.
La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Sur France Culture, Sophie Doudé, on marque une pause comme chaque jour dans cette émission pour prendre des nouvelles des revues littéraires. Et voilà qu'il nous revient fraîchement des États-Unis. C'est Philippe Roger de la revue Critique. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Critique qui d'ailleurs s'était intéressé à Malraux il y a quelques mois, si ma mémoire est bonne.
Ah oui, Malraux est très présent dans Critique. J'en suis un fervent lecteur moi-même, mais nous avons parlé de lui à propos du musée imaginaire dans un numéro qu'avait dirigé Jean-Louis Janel sur le musée sous réserve d'inventaire. Et puis nous avons évoqué évidemment la parution de ce manuscrit d'un roman très inachevé qui se serait peut-être intitulé Non.
Voilà, donc si on veut en savoir plus, il faut aller fouiller dans les archives de...
Mais on va le retrouver dans la grotte de Lascaux en plus.
Alors voilà, c'est de ça qu'on va parler. Parce que le numéro du mois de novembre 2016 est intitulé « Écriture tout terrain, deux points, anthropologue et écrivain ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'enjeu de ce dossier, de ce titre ?
Oui, alors « Écriture tout terrain », ça pourrait d'ailleurs aller très bien aussi à Malraux. Mais en l'occurrence, il s'agit plutôt de montrer, ce qui n'est pas tout à fait nouveau, les liens profonds qui ont toujours existé entre écrivain et anthropologue. On a en France en particulier une très belle tradition à cet égard. D'une part parce que les anthropologues, on peut remonter à Marcel Mauss, hein, qui citait Flaubert dans ses cours, ou à Claude Lévi-Strauss, qui a écrit, on le sait, sur Proust, sur Rimbaud, sur Montaigne, ont toujours eu la littérature en tête, si j'ose dire, et même sous leur plume. Mais aussi parce que beaucoup d'anthropologues en France ont travaillé sur des corpus littéraires. On ne peut pas les nommer tous, mais on peut évoquer très rapidement Yvonne Verdier, Marc Auger, qui fait partie de notre comité de critique, Jean Jamin, qui a écrit sur Faulkner, sur Léris, et puis, bon, à tout seigneur, tout honneur, Michel Léris lui-même, peut-être, auquel nous avons d'ailleurs aussi consacré un numéro, l'an dernier, quand l'écriture s'expose. Donc, vous voyez, il y a une belle tradition, et nous avons demandé à Vincent Debanne, qui est un jeune anthropologue qui vient de passer de l'Université Columbia à l'Université de Genève, il va d'un bon lieu à un autre bon lieu, qui est l'auteur d'un très beau livre, L'adieu au voyage, l'ethnologie française entre science et littérature, paru chez Gallimard en 2010, nous lui avons demandé de préparer un numéro qui fasse un peu l'état des lieux.
Alors qu'est-ce qu'il en ressort globalement ?
Alors il se pose la question, que serait une ethnologie de la littérature ? C'est une question intéressante. Il oppose ici la position ethnologique à ce que pourrait être celle de la sociologie ou de l'histoire qui... Elle, la sociologie comme l'histoire, n'hésite pas à prendre la littérature comme objet, avec tous les risques que ça suppose de la prendre comme objet un peu de l'extérieur, quitte à laisser les littéraires, souvent écrivains ou critiques d'ailleurs, un peu inconvaincus. Et Vincent Debanne soutient cette idée intéressante que l'ethnologie est la mieux placée des sciences sociales pour parler de la littérature. Pourquoi ? Alors il a deux arguments. Premier argument, l'ethnologie est habituée à parler des objets singuliers, et c'est le cas de l'œuvre littéraire. Et la seconde raison, que je trouve très intéressante, Debanne nous explique que l'ethnologie, je le cite, « intègre à ses objets les attachements qu'ils suscitent ». Et pour moi, ça évoque aussi ce que disait le dernier Roland Barthes, hein, c'est-à-dire que pour bien parler de la littérature, il faut accepter d'en entendre le pathos et même de passer par ce pathos. Donc cette idée d'attachement à l'objet.
Mais qu'est-ce que ça donnerait exactement? Ce serait quoi une ethnologie de la littérature? Est-ce que ce serait une ethnologie des écrivains? Est-ce que ce serait une ethnologie des livres? Qu'est-ce que ce serait?
Alors,
ou qu'est-ce que c'est?
Il y a plusieurs voies qui s'ouvrent et certains des articles, nous avons un article sur Pierre Déléache, qui est un des meilleurs spécialistes des chamanismes d'Amérique du Sud aujourd'hui, un livre Repartir de zéro, qui étudie un personnage très intéressant, trop méconnu en France, qui s'appelle Jerome Rottenberg, et qui est quelqu'un qui a été actif surtout dans le New York, le East Village des années 60, et qui traduisait ou réécrivait, on ne sait pas trop quel mot employer, je dirais peut-être transcrivait, des discours navarro, quechua, des chants pygmées, des poèmes inuits et maoris. Il y a une manière là d'implication très particulière. Mais il y a d'autres formes. Il y a une autre anthropologue encore assez inconnue en France, sauf des spécialistes, qui s'appelle Kirin Narayan, et qui fait de Tchekhov une sorte de muse ethnographique.
C'est son expression. C'est-à-dire qu'en lisant Tchekhov, on peut faire de l'ethnographie, c'est ça?
Alors à partir de
Tchekhov, vous êtes déjà de l'ethnographie
voyageur, du Tchekhov qui lui-même a eu une idée ethnographique, c'est-à-dire aller jusqu'à l'île Sakhalin. Il en a fait le titre d'un livre, hein, l'île Sakhalin, 1895, pour rendre compte de la vie du bagne de Sakhalin, mais aussi de la vie des populations autochtones, on le sait moins, les Gilyak et les Ainu. Et à partir de cette tentative ethnographique, cette anthropologue américaine essaie de voir en quoi ça a amené quelque chose de nouveau dans l'écriture de Tchekhov. Voilà ce qui nous intéresse au premier chef.
Dernier point, rapidement, Philippe Roger, vous avez évoqué tout à l'heure la bataille de Lascaux.
C'est la bataille et le Daniel, bataille Daniel, à la Daniel, fois, puisque voilà, c'est un très beau livre. Alors, je voudrais en dire un mot pour finir. Nous rendons hommage dans ce numéro, ça ne devait pas être un hommage, ça devait être un simple compte-rendu, à Daniel Fabre. Daniel Fabre est un anthropologue qui est mort en janvier dernier, qui enseignait à l'école des hautes études en sciences sociales. Et son dernier livre, ce qui malheureusement est devenu son dernier livre, est un livre que je trouve magnifique et dont Vincent Debanne rend compte dans notre numéro, intitulé « Bataille à Lascaux ». Bataille, c'est Georges Bataille. Comment l'art préhistorique apparut aux enfants.
Parce que Georges Bataille est allé récolter les récits des enfants qui ont découvert Lascaux.
Oui, alors Bataille est allé à Lascaux à l'occasion d'un projet qui était un projet d'Albert Skira, le grand éditeur genevois, de faire un livre d'art sur... Et ce livre existe, c'est Lascaux, la naissance de l'art. Et là, il a été passionné par une dimension vraiment ethnographique et en même temps tout à fait saisissante de ce qui s'était passé à Lascaux, c'est le rôle des enfants. Le fait que, et c'est ce que Daniel Fabre a reconstitué, c'est le fait que ce qui a intéressé Bataille, bien sûr, c'est la naissance de l'art et peut-être de l'homme, entre guillemets, enfin l'homme que nous connaissons, tel que nous sommes aujourd'hui, mais c'est ce moment qui ne sera jamais reproduit, et surtout pas par les Lascaux 2, 3, 4, ce moment dans lequel, dans le regard des enfants, est apparue la merveille ineffable des peintures rupestres de Lascaux.
Et c'est précisément parce que c'était des enfants qui ont été émerveillés par Lascaux qu'on peut dire que Lascaux, c'est avant tout une œuvre d'art. Merci Philippe Roger. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous en librairie pour vous procurer le numéro en cours de la revue Critique aux éditions de Minuit. Suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture, Sophie Doudet est mon invitée. Nous parlons d'André Malraux, Malraux dont on connaît l'engagement sur le front espagnol en 1936. Sa femme de l'époque, Clara Malraux, en parle ici en archive.
Le troisième jour, après mon arrivée à Madrid, je me suis mise à pleurer devant André et il m'a demandé pourquoi je pleurais. Et je lui ai dit, est-ce que vous ne voyez donc pas que nous sommes vaincus ? C'était plus une impression que vraiment un raisonnement, n'est-ce pas? Mais je me souvenais, étant plus âgé que lui, de la guerre de 14-18, et je voyais bien qu'une guerre ne se menait pas, ne s'improvisait pas comme elle était en train de s'improviser. Et il y avait chez André, enfin ce qu'il a appelé l'illusion lyrique, c'est-à-dire l'idée en effet qu'on s'improvise aviateur, qu'on s'improvise général, qu'on s'improvise lieutenant-colonel, qu'on fait n'importe quoi, dans la grandeur, dans l'exaltation. Et cela, c'était une idée qui me paraissait profondément déraisonnable. Enfin, André a beaucoup rêvé ses actions, celles qu'il n'a pas accomplies et celles qu'il a accomplies. Il les a toutes rêvées.
En 1936, Sophie Doudet, c'est donc l'aventure de cette escadrille que Malraux va mettre sur pied et diriger. C'est une aventure tragique.
Oui, parce qu'elle finit mal. Au sens où, si l'escadrille a pu être utile sur le terrain, la guerre a été perdue et elle a sans doute traumatisé d'une certaine manière Malraux, qui en gardera au moins une leçon. C'est celle d'attendre que des grandes puissances interviennent et pendant la Seconde Guerre mondiale. Clairement, sa réticence à rentrer dans la résistance dès la première heure a probablement aussi une source qui est l'échec qui a été celui de la guerre d'Espagne.
Donc là, Clara Malraux a raison quand elle dit que, a priori, elle savait qu'il courait vers la mort. Alors pas lui, mais quand même beaucoup de ses compagnons, camarades de combat. Je ne sais pas combien de personnes vont revenir de cette escadrille, mais enfin, il y a quand même énormément de morts.
Et il y a eu des morts. Et bon, après, quand on rentre en guerre, si on pense qu'on va gagner, ça nous mobilise. Mais clairement, il y a un prix à payer. Donc, je ne suis pas absolument sûre que Clara ait eu raison sur l'idée que Malraux a rêvé la guerre d'Espagne. C'est sans doute un peu excessif. Qu'il ait, après, romancé son action dans l'escadrille espagnole, c'est indéniable. Après, il y a une réalité, c'est que il y a une part de l'honneur de la France qui tient à Malraux dans cette période-là, parce qu'il y avait très peu d'écrivains qui ont non seulement fait cela, mais ne serait-ce que dénoncé cette situation. Et il y a au moins une grandeur chez Malraux, c'est d'avoir dit que ça n'était pas tolérable, d'avoir pris les armes. Et pour le coup, de ne s'être pas tout à fait trompé de camp. Après, ce qui s'est passé dans la guerre d'Espagne, on le voit très bien dans le film de Ken Loach, par exemple, Malraux le passe un peu sous silence dans l'espoir, c'est-à-dire qu'il a une...
Donc l'espoir, le livre qu'il tire de cette expérience et dont il fera également un film.
Voilà, et qui paraîtra fin 1937. Malraux, sans être absolument communiste orthodoxe, il ne l'est pas dans le roman, et il faut vraiment le rappeler, parce que ce roman est complexe, passe indéniablement sous silence des purges, et le fait qu'il y a une deuxième guerre civile à l'intérieur de la première, c'est-à-dire que c'est une guerre politique entre les anarcho-syndicalistes et les communistes. Soviétique, s'il en est.
Donc il est de moins en moins communiste, il l'a été davantage en Asie, et puis au fur et à mesure de sa vie, il le sera de moins en moins jusqu'à devenir, on va le voir, gaulliste.
Alors, il est compagnon de route jusqu'en 36-37, il se tait pendant la guerre d'Espagne, mais il fait tout ce qu'il peut pour sauver...
Il était allé à Moscou, hein, avant,
oui,
en 1934.
Oui, il a fait le tour du monde et il est allé à Moscou. Après, à Moscou, il est parfois réticent, on a quand même un carnet du RSS sur lequel on trouve quelques notations qui sont quand même assez lucides sur ce qui se passe, même si c'est pas du tout retour du RSS de Gide, indéniablement. Mais il y a aussi une action souterraine de Malraux qui vise à défendre, par exemple, des camarades qui sont inquiétés par le parti en Espagne et qu'il va essayer de défendre et qu'il va sauver des griffes du Parti communiste. Donc, une situation qui aboutit à un retournement, qui aboutit à un mutisme ou en tout cas à une sorte de silence solidaire et fraternel et qui, finalement, sera soldée avec les accords entre Staline et Hitler. Là, le pacte germano-soviétique, c'est la goutte de trop et ça bascule de l'autre côté, avec une révélation pendant la Seconde Guerre mondiale qui est celle de la nation, du peuple français, et une rencontre plus tard avec De Gaulle.
Alors justement, arrive la guerre de 40. À ce moment-là, il vit un nouvel amour avec Josette Clotis, qui voudrait qu'il divorce, qui voudrait avoir des enfants avec lui. Ce sera le cas d'ailleurs. Et il va, vous le disiez, rentrer dans la résistance, mais il va lui falloir un peu de temps avant de devenir le colonel Berger. Son frère aussi était dans la résistance, Roland.
Alors, il a deux demi-frères et les deux vont être dans la résistance. Donc, Claude et Roland vont être, avant André Malraux, résistants, vont avoir des liens avec des réseaux et ils vont payer le prix lourd, puisqu'ils vont mourir tous les deux de façon différente, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Que ça, pour Claude, puisque Roland mourra, on le saura après, que ça ait joué dans la bascule de Malraux dans la résistance, c'est indéniable. Après, ce qui se passe aussi, c'est que bon, il a une quarantaine, peut-être je sais pas, une crise existentielle ou la volonté peut-être de changer, un relatif bonheur avec Josette Clotis, indéniablement aussi une réticence à l'égard d'une résistance pour le qu'il trouve mal organisée. Et puis bon, bah, l'action le reprend, la cohérence, une volonté de s'engager, des valeurs. Malraux est quelqu'un qui a des valeurs, il ne croit pas en grand-chose, mais il a quand même un grand sens de la dignité humaine, de la grandeur. Et il n'a jamais pactisé avec le totalitarisme, notamment nazi. Donc à un moment donné, voilà, on prend les armes.
Mais c'est quand même une période extrêmement dramatique sur le plan personnel pour lui. La mort de ses deux demi-frères et la mort donc de cette femme, Josette, avec qui, visiblement, il pensait passer sa vie.
C'est la mort de sa compagne qui est terrible parce qu'elle est monstrueuse. Elle court sur un quai de gare et elle tombe sous le train. Et donc elle va être coupée en deux et elle va mourir.
C'est pour lui dire au revoir qu'elle court
Non, elle s'est fâchée avec sa mère. Enfin, disons que sa mère est venue leur rendre visite. Et bon, ben voilà, il y a des histoires qui sont des histoires de couple. Malraux ne divorce pas. Sa femme est juive pendant la Seconde Guerre mondiale pour plein de raisons sur lesquelles, je dirais, tout être qui a divorcé peut très bien projeter ses propres émotions. Pour plein de raisons, ils ne divorcent pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la mère de Josette Clotis, bon, ben voilà, elles ont une altercation sur cette question-là. Et elle la met dans le train et puis elle regrette, elle court et elle tombe. Et c'est horrible.
Pour moi, la politique n'a jamais existé. Ce qui a existé, c'est l'histoire. Bon, alors, je me suis trouvé dans la politique parce qu'elle est le moyen de l'histoire, n'a pas l'autre. Mais une politique sans histoire n'a aucun intérêt, n'a aucun intérêt pour une raison bien simple, c'est que le jour où le général de Gaulle a donné sa démission, j'ai fait savoir que je donnais la mienne, et que voilà, et que je n'ai jamais remis les pieds depuis un conseil des ministres. Mon action en politique, ou bien c'était la révolution, ou bien c'était la nation, c'était la résistance du général de Gaulle, mais ça n'a jamais été la politique.
Le destin bascule, c'est un espoir, regarde ton peuple d'ombre, l'héritière de la première. Le destin bascule, c'est un espoir, regarde ton peuple d'ombre, l'héritière de la première.
Donc la rencontre, Sophie Doudet, avec le général de Gaulle, elle se fait à la fin de la guerre, en France, sur le sol français.
Oui.
Il a envoyé une lettre au général.
Oui,
faire un acte de candidature.
Alors, il y a eu une première lettre, non. Il y a eu une première lettre qui est partie pendant la guerre, dit-on. Il a tenté de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Et la lettre a été arrêtée. Enfin, la personne qui portait la lettre a été arrêtée. Et dit-on, elle a mangé la lettre. Donc, elle a avalé le billet. Mmh. Et donc, il y a eu une première rencontre qui n'a pas eu lieu. Après, au sortir de la guerre, il y a une sorte de montage entre les deux entourages de Gaulle et de Malraux.
C'est un mariage arrangé.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, chacun pense qu'il est appelé par l'autre, ou en tout cas qu'il est sollicité par l'autre, et ils finissent par se rencontrer. Et ce jour-là, Malraux dit qu'il a rencontré la France.
L'incarnation de la France. Ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, ce jour-là, cette rencontre-là fait bouillonner l'esprit de Malraux comme jamais. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet homme, comme jamais. Peut-être pas tout à fait, peut-être comme quand il avait rencontré, bien des années plus tôt, Trotsky.
Oui.
Ce sont les deux grands hommes politiques, finalement.
Oui, c'est les deux grands hommes. Après, il y aura Mao. Le trio peut se discuter. Oui, à la différence près que quand il rencontre Trotsky, c'est un jeune écrivain. Il a écrit La Condition humaine. Il a écrit Les Conquérants et il va. C'est la période de La Condition humaine. Et il n'attend pas de Trotsky, je dirais, un poste ou en tout cas le fait de participer à la politique d'un pays.
Alors que là, c'est différent. Il devient ministre de l'information du gouvernement en 1945.
Brièvement. Alors, il s'occupe modérément de l'information. Ça ne le passionne pas. En revanche, ce qui le passionne, c'est déjà la culture et l'éducation. Donc, il a déjà des projets qui avaient déjà été amorcés pendant le Front populaire, par notamment Jeanne Laurent, de diffusion et de démocratisation de la culture. Et puis, ça s'arrête parce que le général de Gaulle part. Mais ça ne s'arrête pas. La relation avec le général de Gaulle ne s'arrête pas puisque Malraux va devenir un des grands orateurs politiques, pour le coup, du RPF.
Donc, pendant toute cette traversée du désert de Gaulle, Malraux sera à ses côtés.
Oui, pas forcément en termes de rencontres, ça il faudrait voir dans le détail, mais c'est pas à mon avis très fréquent. En revanche, jusqu'au moment où le RPF échoue aux élections, Malraux est quelqu'un qui invente une sorte d'armée à la fois résistante et révolutionnaire, avec des jeunes qui gravettent autour, et fait souvent la première dans les discours de Gaulle. C'est-à-dire qu'il annonce et il va avoir un gros travail d'orateur. Je ne suis pas sûre que ça le convainque tout à fait. Très rapidement, quand même, on sent qu'il s'épuise et qu'il est moins convaincu, tout simplement parce que le système des partis ne convient pas non plus ni à de Gaulle ni à Malraux. Et il va s'intéresser davantage à l'art. À ce moment-là, c'est la grande période des récits, des grands textes sur l'art, des grands essais sur l'art.
C'est aussi parce qu'il s'intéresse moins, on dirait, à la littérature. Il laisse peut-être de côté aussi la littérature. Est-ce qu'il considère qu'il a écrit ce qu'il avait à écrire ?
C'est une vraie question sur laquelle, finalement, on ne lui a pas vraiment posé la question. Je n'ai pas de réponse possible. Ce qui est sûr, c'est que les Noyers de la Tannebourg sont le dernier roman qui paraît, qui est inachevé, qui sera repris dans Lazare plus tard, qui est pourtant un très beau roman. Mais il renonce, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il a eu le sentiment qu'il avait tout dit dans la fiction, peut-être aussi parce qu'il est pris par un autre projet. Et chez Malraux, vous avez prononcé à plusieurs reprises un mot qui est important, qui est le mot « ennui ». Je ne suis pas sûre que ça soit quelqu'un qui soit systématiquement... Il est dans l'approfondissement d'une pensée, mais il n'est pas systématiquement dans la continuité de projet. Il a besoin de défis nouveaux et de projets nouveaux.
Et donc le dernier grand défi de Malraux, ce sera évidemment, et c'est peut-être comme ça qu'on s'en souvient finalement le plus, d'être de nouveau ministre de Gaulle, mais cette fois le premier ministre des Affaires culturelles. Dès janvier 1959.
Oui. Alors, ce n'est pas exactement ce dont il rêvait. Il rêvait davantage d'action politique et notamment...
C'est l'action quand même.
Oui, mais bon, clairement, il rêvait plutôt de l'Algérie, des relations internationales, voire éventuellement de l'intérieur, ce qui faisait frémir beaucoup de gens. En revanche, évidemment, on lui propose quelque chose sur lequel il est beaucoup plus légitime et qui va être la démocratisation culturelle, le rayonnement intellectuel et culturel de la France, les grandes périodes oratoires, les grands discours, panthéon, commémoration.
Alors c'est des moments qui sont quand même difficiles, on ne le sait pas forcément, mais enfin, d'abord sur le plan personnel, il va avoir de nouveaux deuils à vivre et puis il va s'enfoncer quand même au fur et à mesure dans une forme de dépression.
C'est pas une période facile pour lui, pas non plus pour ses biographes. C'est pas toujours facile de raconter cet aspect de la vie de Malraux.
C'est peu connu, hein, quand même.
C'est moins connu. C'est vrai aussi que c'est pas forcément le moment où il est le plus, je dirais, grand, sinon intéressant, même s'il y a des choses passionnantes. Donc, divorce avec Madeleine, qui a été sa deuxième femme. Et qui était sa belle-sœur.
Brouille avec sa fille, Florence.
Brouille avec sa fille pour le manifeste des 121 qu'elle avait signé, insoumission dans la guerre d'Algérie, perte de ses deux enfants. Donc beaucoup
deux
de
fils,
deuil, oui, de ses deux fils, pardon. Et il avait Florence qui, évidemment, toujours sa fille est vivante. Oui, beaucoup de deuil, peut-être aussi des formes de peur, de stérilité.
D'addiction.
D'addiction, indéniablement. L'alcool, peut-être plus que la drogue, qui font que... Il y a une sorte de descente, sinon aux enfers, de dégradation. Mais pas forcément dans la littérature. C'est-à-dire que la littérature est un moyen justement toujours de compenser, de surmonter ce qui est finalement peut-être de plus en plus pesant dans une existence.
Et puis toujours évidemment ce reproche incessant, maintenant qu'il a comme entourage les gaullistes et quasiment exclusivement les gaullistes, peut-être ce sentiment d'avoir perdu une partie de sa jeunesse et puis même peut-être la moitié de sa vie.
En tout cas, d'avoir perdu des amis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des amis qui restent des amis, des fidélités indéniables. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et après Seconde Guerre. Et le gaullisme l'a éloigné, je dirais, de fraternité, qui est des fraternités politiques aussi. Beaucoup aussi de désillusions, indéniablement. Mais sans arrêt, des nouveaux livres. Je pense à Lazare. On a une attaque cérébrale. On pense qu'il va mourir. Il renaît. Il ressuscite. Et il écrit un de ses plus beaux livres. Lazare, c'est un livre absolument extraordinaire.
Et de tout cela, nous allons continuer de parler toute cette semaine dans la compagnie des auteurs. J'espère que vous serez à l'écoute, Sophie Doudet. Merci, merci beaucoup. Tout de suite, on termine cette émission d'aujourd'hui, comme chaque jour, avec des textes poétiques lus par Jacques Bonafé.
Bonjour, transition parfaite. Avec André Malraux, cette semaine, nous allons dialoguer avec Jacques Ralite, ancien ministre sous François Mitterrand, sénateur, homme de culture et d'engagement, créateur des États généraux de la culture, ancien maire communiste d'Aubervilliers. La pensée, la poésie et le politique. C'est édité aux Solitaires intempestifs. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. Mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas accompli. Si Jacques Ralite cite Victor Hugo, c'est qu'il se réclame de cette même exigence, remplacer le mot « public » par le mot « peuple ». Ôter une pierre et mettre un nid, c'est un travail politique incontournable auquel nous nous devons de participer. Hugo, cet homme qui se souvient de l'avenir, me pousse à le faire, à faire plus, à faire mieux, avec notamment le transfert en politique de la langue du poète. Extrait de Serge Pey, l'idéal d'une carte. Pour saisir le dehors, il nous faut nous-mêmes devenir le dehors. Le poème n'est qu'une méthode pour s'enlever la peau et trouver le dedans au plus loin de nous. Les politiques ont pris l'habitude de mettre l'artiste à la boutonnière, dit Ralite. Inviter un artiste à une soirée pour montrer qu'on le connaît, j'ai ce genre de pratique en horreur. C'est pure hypocrisie et cela ne m'intéresse pas. Le meilleur de l'artiste ne se rencontre jamais là. Il y a quelques années encore, un homme politique sortait grandi de sa relation avec un poète, mais aujourd'hui, quel est le personnage politique qui va discrètement écouter la lecture d'un poète? Quel est celui qui saura vous parler de langage, de l'invention d'une idée? Le politique va là où il sera bon d'être vu, quitte à s'y perdre. Cultivons nos légitimes étrangetés, disait René Char. Cultivons nos légitimes étrangetés. Poème pour un enfant au sujet de l'espérance, c'est un poème de Serge Pey, dont Jean-Pierre Verhaeghen dit « Pey comme pédaleur hilar dans la choucroute du poétiquement John Peirce. Pey comme schtroumpfeur à payot contre toutes les dictatures à diction dans toutes les langues du monde. Pey comme percutant performeur en pétard contre tout récitant tonton sous perfusion tontaine. » Poème pour un enfant au sujet de l'espérance. On pourrait poser le problème ainsi, à la manière de Gramsci. Chaque gland peut penser qu'il deviendra un chêne. Si les glands avaient une idéologie, ce serait justement celle de se sentir enceint de chêne. Mais dans la réalité, 999 glands sur 1000 servent de nourriture aux cochons et contribuent tout au plus à créer des saucissons et de la mortadelle. Chaque mot peut penser qu'il deviendra une vérité. Si les mots avaient une idéologie, ce serait justement celle de se sentir enceint de vérité. Mais dans la réalité, 999 mots sur 1000 servent de nourriture aux mensonges et contribuent tout au plus à créer des discours et des prières dans les cimetières. Chaque morceau de bois peut penser qu'il deviendra une porte. Si les morceaux de bois avaient une idéologie, ce serait justement celle de se sentir enceint de porte. Et comme une chanson, Serge Pey continue ce long poème au sujet de l'espérance. Poème, dit-il à la fin, à compléter librement par celui qui le lit.
Jacques Bonafé, qui lit donc cette semaine des textes de l'homme politique Jacques Ralite, auteur du texte La pensée, la poésie et le politique. Sophie Doudet, je rappelle que votre biographie de Malraux vient de paraître en folio. On peut également trouver chez Gallimard dans la collection Blanche votre édition de la correspondance entre Malraux et Camus de 1941 à 1959. Cette émission était réalisée comme chaque jour par Laurence Millet. À la console, il y avait Élise Leu et à la préparation Didier Pinault, Corinne Amaran, Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, Malraux politique, au travers notamment de ses relations avec De Gaulle. Ce sera avec Alexandre Duval-Stalla. On parlera également de Malraux en mai 68, cette fois avec Michel Crépu. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec les sciences sur France Culture. C'est Nicolas Martin. À demain.